Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Amputation du bras d'un nouveau-né à l'hôpital Gabriel Touré. Comment cette erreur médicale, je mets cela entre guillemets, a-t-elle pu se produire? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Jimmy Kanté, porte-parole du syndicat du CHU Gabriel Touré et Samerou Diallo du collectif Sauvons nos hôpitaux. Je rappelle que nous avons invité le ministère de la Santé mais ils n'ont pas souhaité se faire représenter sur ce plateau. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Vous nous suivez sur 75 radios à travers le Mali, 3 télévisions et en live sur Facebook. Bonsoir à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous parlons de cette situation des bébés qui seraient amputés. On parle de 3 cas sur les réseaux sociaux, mais au niveau de la direction de l'hôpital, on parle d'un cas avéré et que l'autre cas pourrait être sauvé. Alors, Jimmy Kanté, qu'en est-il de cette situation?
Effectivement, comme tout le monde, nous avons appris cette triste nouvelle. Concernant l'hôpital Gabriel Touré, qui est l'hôpital le plus fréquenté du Mali. Nous avons vu dans la vidéo des témoignages d'un parent qui parle de l'amputation de son enfant suite à une erreur médicale, comme il l'a si bien dit, ou bien peut-être due à une négligence. Donc tout de suite, nous avons essayé de comprendre, en tant que responsable syndical, nous avons essayé de comprendre ce qui se passait. Et lorsque nous avons approché les différents responsables d'abord du service de pédiatrie et ensuite la direction de l'hôpital, nous avons compris dans un premier temps que l'enfant n'était pas amputé. Et ensuite, nous avons compris par la suite que c'est un enfant qui a été admis à l'hôpital suite peut-être à des maladies et que l'enfant était encore sous surveillance. Mais vous savez, dans une situation comme ça, c'est facile de que ce genre d'information soit divulguée sans pourtant qu'elle ne soit avérée. Parce qu'un parent qui amène son enfant à l'hôpital, et souvent le médecin envisage le pire, et des fois le malade est préparé au pire. Donc on peut l'appeler effectivement pour dire que, voilà, au vu de ce que nous sommes en train de constater sur votre enfant, il n'est pas à écarter que le bras soit amputé. Donc tout de suite, le papa, il peut paniquer, il peut dire ce qu'il veut, il peut croire que c'est imminent. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que réellement, cet enfant est toujours hospitalisé à l'hôpital Gabriel Touré. Il répond très favorablement au traitement prescrit par la pédiatrie. Et l'amputation n'est plus à l'ordre du jour. Je parle de l'enfant dont le témoignage est passé.
Les malades vont à l'hôpital, les malades et leurs parents vont à l'hôpital pour se faire soigner, pour se mettre à l'aise. Si vous leur donnez ce type de nouvelles, est-ce que ça n'aggrave pas leur situation?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est très important. Vous savez, il est important de préparer psychologiquement un malade qui arrive. Et lorsqu'il y a des signes cliniques qui prouvent que il y a une situation vraiment difficile qui arrive, il vaut mieux aviser le parent, que le parent soit préparé psychologiquement. Et surtout que c'est des signes qui pouvaient être vus à l'œil nu. Le papa, il était là, les parents étaient là, ils voyaient vraiment des choses anormales sur le bras de l'enfant. Il fallait les expliquer, les préparer à la chose. Mais je ne pense pas que ce soit exactement même ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que l'enfant avait des problèmes très sérieux au niveau du bras. Et le médecin était en train, c'est-à-dire qu'au niveau de la pédiatrie est un service. Mais il y a ceux qui font l'amputation ne sont pas à la pédiatrie. C'est un autre service qu'on appelle la chirurgie pédiatrique. Donc le médecin, ayant constaté des problèmes, avise le parent et prend l'avis du chirurgien. Et ce n'est pas que le chirurgien, il y a d'autres spécialistes qui viennent, qui constatent, et c'est justement après un staff que l'avis est définitif est donné. Donc je pense que c'est entre-temps que la nouvelle s'est propagée sur les réseaux sociaux.
D'accord. Il y a eu une fille qui a été, dont le bras a été amputé il y a quelques jours. On va écouter sa tante, Sitan Keita, qui réagit sur la question.
Le jour où on a amené l'enfant, il a été hospitalisé le même jour. Il a subi une transfusion sanguine parce qu'on nous a dit qu'elle souffrait d'anémie et elle a subi beaucoup de traitements. C'est au cours de ces traitements qu'elle a subi beaucoup d'injections au niveau des bras, les pieds et même la tête. Mais c'est l'autre bras qui a été sérieusement infecté. Nous, on ne sait pas. Le bras a commencé à s'enfler. À chaque fois qu'on alerte les médecins, on nous rassure que ça va aller. On est resté comme ça jusqu'à lundi dernier, au petit matin, quand je venais les voir. C'est en ce moment que ma sœur m'a appelé pour me dire que les docteurs ont décidé de l'amputer. J'ai pleuré, mais ma sœur m'a supplié de laisser faire pour sauver juste la vie de cet enfant. Surtout qu'on lui a dit que s'il n'est pas amputé, il mourra. Donc j'ai insisté pour savoir s'il y avait une autre possibilité, une autre alternative, même s'il fallait l'amener en Tunisie en vain. Alors ils l'ont amputé et voilà que notre fille est devenue une handicapée à vie.
Quand on va à l'hôpital pour guérir d'une maladie et on se retrouve amputé d'un membre de son corps, où va-t-on? C'est la question qu'on se pose.
Merci Touré. Moi, je pense que c'est vraiment difficile, c'est compliqué parce qu'en écoutant la maman, on a tendance à comprendre qu'elle n'avait plus d'espoir que d'accepter les conditions qui aient amputé le bras de sa fille. Et moi, en parlant de cette situation, peut-être il serait bien de préciser. Nous, en tant que société civile, on n'est pas contre le gouvernement, mais on est contre ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance qui règne au sein de nos hôpitaux. Le collectif Sauvons nos hôpitaux s'inscrit dans la logique que Jimmy vient de dire, qui est réclamer tout ce qui est matériel de travail au sein des hôpitaux. Et ce qu'il faut reconnaître aussi, nous avons tendance aussi à tout rejeter sur le gouvernement. Certes, le gouvernement doit être responsable, le gouvernement doit jouer vraiment pleinement son rôle. Mais ce qui est à reconnaître aussi, les médecins qui sont dans ces hôpitaux-là, le personnel qui est dans ces hôpitaux-là doit aussi penser que quelqu'un qui est dans un hôpital et quelqu'un qui quitte dans une banque ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas non seulement les mêmes mentalités, vous n'avez pas les mêmes comportements. Pensez à ceux qui viennent dans ces hôpitaux-là, c'est le rôle primordial, sinon c'est le rôle que ces médecins-là doivent jouer en premier lieu. Moi, je parlerai ici de ce qui est dit. En termes de texte, la Constitution, qui est la loi fondamentale, nous donne la priorité d'éduquer. La santé, l'éducation, l'instruction, c'est des droits reconnus par la Constitution. Et les plus hautes autorités doivent jouer vraiment le rôle dans ce sens-là. Dire qu'il y a erreur médicale, c'est triste d'entendre ça, dire que le médecin n'a pas joué son rôle, soit il y avait une maladie, oui, on est obligé d'amputer le bras de la fille. La maman a parlé de ça. Si quelqu'un qui n'a pas d'argent et qu'on doit envoyer ton enfant à l'extérieur, tu es obligé d'écouter, tu es obligé de se remettre en cause que moi, en tant que citoyen du Mali, je vais dans un hôpital du Mali. La moindre des choses qu'on ait le préalable dans un hôpital. C'est pas comme si je vais dans un CSCOM, on vient dans un hôpital parce qu'on n'a pas eu le remède au niveau du CSCOM et on vient dans l'hôpital. Si au niveau de ces hôpitaux-là, qu'on suppose dire que c'est le CHI qui a vraiment le meilleur plateau, mais imaginez-vous la suite. On vient, on ampute le bras de l'enfant.
Est-ce que vous pensez que les médecins sont responsables de cette situation?
Je ne dirais pas forcément, mais je vais me remettre sur les propos de la maman. Il y a la responsabilité du médecin qui est là. Et l'État doit jouer son rôle. On sera vraiment content d'avoir la suite qui sera des sanctions. Des sanctions au niveau du syndicat. Le syndicat joue son rôle. Mais au niveau du gouvernement, de veiller à ce qui vient de se passer comme acte, que ça ne se reproduise plus. Le médecin ne peut pas sauver une vie, mais il peut contribuer à dire que ce que tu as comme maladie, moi, en tant que médecin, je peux soulager, je peux t'aider à dire que voici, je suis là pour t'aider, c'est mon rôle et je vais faire ça en tant que médecin. J'ai prêté serment pour ça. Mais ce qui s'est passé, nous avons pris sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là-bas, je ne travaille pas là-bas. Dieu est mieux placé de nous dire, mais en écoutant la maman, on sent qu'il y avait ce qu'on appelle mauvaise gestion au niveau de la pédiatrie.
Est-ce que les médecins reconnaissent leur responsabilité dans cette affaire-là?
Non. D'abord, je pense que nous compatissons vraiment à la douleur de cette famille et nous prions pour une bonne santé pour l'enfant. Mais vous savez, la responsabilité médicale, c'est facile vraiment de dire comme ça. Et je voudrais, avant de rentrer dans les détails, dire à M. Diallo que le syndicat ne peut pas sanctionner. Le syndicat ne sanctionne pas. La sanction, elle est administrative et elle vient d'une direction, en tout cas, ou d'une autre autorité.
Mais est-ce que le syndicat réclame des sanctions?
Le syndicat réclame des sanctions. Et notre syndicat réclame des sanctions. Nous avons beaucoup de documents par rapport à ça. Vous savez, c'est une situation malheureuse, mais elle nous réconforte dans notre lutte quotidienne. Depuis plusieurs années, nous avons réclamé un certain nombre de conditions minimum pour pouvoir éviter des cas comme ça. Et ce qui me surprend, c'est vraiment l'ampleur que cette chose et que vraiment cette situation est en train de prendre.
Monsieur Kanté, comment une situation malheureuse peut-elle vous réconforter?
Non, quand je dis que ça non, c'est que le traitement fait de la chose. Je dis que ça nous réconforte dans notre lutte quotidienne. Et comment? Vous allez comprendre, depuis plusieurs années, nous avons dit vraiment aux différentes directions de l'hôpital, au ministère de tutelle et au gouvernement du Mali que si des dispositions ne sont pas prises très rapidement, voilà des cas comme ça pourraient arriver chez nous. Et sincèrement, c'est très malheureux, ça nous fait très mal que cela soit arrivé. Mais ce n'est pas la première fois, malheureusement. Les années précédentes, en 2017, il y a eu des amputations. En 2018, il y a eu des amputations. En 2019, il y a des amputations. En 2020...
Et les médecins ne sont responsables d'aucune amputation.
En 2020, en 2021, en 2022, il y aura encore beaucoup plus d'amputations si le problème que nous cessons de signaler vraiment n'est pas réglé. Parce qu'il y a une amputation...
Et vous pensez que les médecins ne sont responsables d'aucune amputation?
Non, c'est trop facile à dire que les médecins ne sont pas responsables. Vous savez, une erreur médical peut arriver dans n'importe quel hôpital, quel que soit le plateau technique.
Mais doit-elle arriver?
Je dis, elle peut arriver. Il faut tout faire pour minimiser ou, à défaut de pouvoir, l'éviter totalement. L'amputation peut survenir des suites d'une infection. C'est un enfant malade qui est arrivé. Et ce qu'on appelle nécrose peut prendre vraiment du temps pour s'installer, une semaine à 10 jours avant que... Donc, un enfant que vous amenez à l'hôpital peut déjà avoir vraiment des germes. Et la nécrose peut se présenter étant dans l'hôpital et ça peut paraître comme si c'est vraiment une maladie attrapée au niveau de l'hôpital. L'enfant qui était anémié, qui devrait être transfusé, le produit sanguin peut être à la base. Il y a les médicaments utilisés, il y a même les consommables tels que les dispositifs utilisés tels que les cathéters, les seringues, peuvent aussi causer des situations comme ça. Et ce qui peut aussi arriver, c'est effectivement ce que la maman a dit, ça peut être dû à une erreur médicale, à l'incompétence d'une infirmière, d'un personnel, d'un médecin. Tout cela, c'est possible.
Donc, Monsieur Kanté, on va à l'hôpital pour se soigner et les équipements qui sont utilisés dans ce même hôpital pour nous soigner peuvent nous tuer.
Malheureusement, l'hôpital dont nous parlons aujourd'hui n'est même pas digne de soigner un animal, la plus forte raison, un être humain. Ça, nous ne le cachons pas. Nous le disons à longueur de journée.
Mais pourquoi les médecins acceptent donc de soigner des gens là-bas?
Vous voulez que les médecins se lèvent tout de suite et quittent l'hôpital et laissent tout ce beau monde là-bas? Vous pensez que... C'est-à-dire, il y a un détail qui est très important. Ne comprenez pas que le médecin, c'est l'enfant maudit de la République. Il y a des brebis galeuses un peu partout. Mais au niveau de l'hôpital, chaque fois qu'un médecin perd un enfant, un être humain, comprenez que derrière ce homme qui est là avec le regard fixe, fort, c'est-à-dire c'est un homme très fragile, qui se met très souvent à pleurer pendant très longtemps. Vous pensez qu'on peut se réjouir de la douleur d'un être humain? Prendre du plaisir à voir des gens mourir. Non, le médecin, ce n'est pas comme ça, malheureusement. C'est des gens qui sont sensibles. C'est comme toi et moi. Donc, sincèrement, toutes ces situations malheureuses qui arrivent, et ça affecte. L'autre jour, nous étions en rencontre avec le ministre de la Santé. Mais il fallait être là. C'était très émouvant. Les médecins se sont mis à pleurer. Je vais juste citer l'exemple d'un médecin en Orel, le professeur Keita. Il a juste donné un exemple. Il dit, une fois, un enfant est venu chez lui. L'enfant était en train de jouer avec sa maman. Il a amené l'enfant au bloc opératoire. Mais déjà, en amenant l'enfant au bloc opératoire, il savait que l'enfant n'allait pas sortir. Il connaît le plateau technique qu'il a à son niveau. Il connaît la maladie de l'enfant. S'il ne prend pas l'enfant, l'enfant peut mourir dans les bras de sa maman. S'il prend l'enfant, il sait que l'enfant peut mourir. Il amène l'enfant au bloc opératoire, l'enfant meurt, mais il a posé la question au ministre. Monsieur le ministre, comment voulez-vous que j'annonce le décès de cet enfant à sa maman? Vous pensez que la responsabilité du médecin est là? Déjà, avant d'amener, je vous assure que partez tout de suite à Gabriel Touré. C'est une simple échographie qui est banale, qui peut se faire dans les petits cabinets, dans les CSCOM, même des gens souvent ont des échographes ambulants, mais vous ne pouvez pas le faire malheureusement à l'hôpital Gabriel Touré. Les analyses les plus élémentaires, je dis bien, qui peuvent se faire dans les plus petits CSCOM de tous les pays du monde, mais vous ne pouvez pas l'avoir à Gabriel Touré. Mais lorsque nous chantons ça à longueur de journée, personne ne réagit. Lorsque nous disons à tout le monde que venez à Gabriel Touré, accompagnez un malade à Gabriel Touré, vous pouvez attraper des maladies à l'hôpital, vous pouvez venir à Gabriel Touré avec une maladie et en sortir avec une autre beaucoup plus grave, mais personne ne nous écoute. On ne fait que dire ça à longueur de journée. Malheureusement, Gabriel Touré enterre souvent un village par an. Le nombre de morts suite vraiment à un plateau technique défaillant, je dirais indigne d'un être humain, suite à des infections nasocomiales, suite à beaucoup de choses.
Et des ressources humaines souvent non qualifiées.
Pas des ressources humaines qualifiées seulement. L'absence de ressources humaines. Prenez tout de suite les revendications, les différentes revendications du syndicat depuis 2012 jusqu'à maintenant. Vous verrez dans tous nos préavis de grève qu'il est clairement dit recruter ou redéployer du personnel qualifié à l'hôpital Gabriel Touré. Je donne juste quelques exemples. Lorsque les pays où on aime aller souvent, où nos dirigeants aiment aller se faire soigner, la norme c'est quoi? C'est peut-être que 12 malades pour un médecin, mais le médecin de Gabriel Touré, il consulte pas moins de 150 malades par jour. Prenez la néonatologie de la pédiatrie. En néonatologie, la norme c'est combien? C'est 3 infirmières pour 3 enfants. Mais à Gabriel Touré, la néonatologie c'est souvent 45 enfants pour 2 infirmières et 2 infirmières non qualifiées. Donc lorsque le syndicat dit qu'il faut recruter ou redéployer du personnel qualifié, ce n'est pas pour que ce personnel aille faire la lessive chez nous, mais c'est pour que justement le Malien, et le Malien c'est qui? C'est nous-mêmes. Vous savez que nous sommes derrière vraiment cette blouse que nous portons souvent, nous sommes de potentiels malades. Et nous connaissons les réalités de nos hôpitaux. Pendant les 17 ans que moi j'ai fait à l'hôpital Gabriel Touré, j'ai vu beaucoup de camarades, beaucoup d'amis, beaucoup de médecins mourir du fait d'insuffisance d'un plateau technique adéquat.
Si le ministère de la Santé avait accepté notre invitation, ses responsables auraient pu donner leur avis sur cette situation, mais nous les avons invités, ils n'ont pas souhaité être sur place ici. Samirou Diallo, il y a Adama Togola sur Facebook qui pense que parmi les causes de cette situation, il y a la négligence et l'incompétence.
Effectivement, il faut reconnaître qu'il y a la négligence, l'incompétence, je dirais, manque de formation, Jimmy l'a dit. Ils ont demandé le redéploiement du personnel qualifié. Moi, je me dis, je fais juste le constat, rien que dans les CSCOM. Tu vas dans un CSCOM, tu trouves que le président de l'ASACO prend, c'est lui qui veille sur le recrutement du personnel de l'ASACO. Ça se fait comment? Des questions, c'est mon enfant qui a fait le DF 3 fois, il fait 6 mois de formation au Croix-Rouge, je le recrute. Il est là, il fait des consultations, il est là, sage-femme. C'est comment? Le soir, c'est de demander, ouais, le médecin chef, il veut manger quoi? C'est de faire la lessive comme il l'a dit. Non seulement il y a la formation au-delà de négligence, la question, on revient à la négligence. On te fait négliger. Au-dessus de cette négligence-là, on te propose des cliniques qui nous appartiennent en tant que médecin. On te dit, on te donne des consignes, va de tel côté, on va te faire soigner. Tu vas là-bas, c'est la même personne qui devrait te soigner dans un hôpital qui est là-bas. Soit il est propriétaire, soit il gagne quelque chose par mois. On le sait, Touré, c'est pas caché. C'est vrai, la loi les autorise d'aller soigner, d'aller créer des cliniques de gauche à droite. Mais ce qui est vraiment anormal, il faut reconnaître, le personnel dont tu te réclames. Moi, en tant que médecin de l'hôpital Gabriel Touré, je suis là à soigner. Je prends ce qu'on appelle le salaire par mois. Mais la moindre des choses, c'est d'être vraiment assidu à ces postes-là. Je ne parle pas du cas des professeurs. Les professeurs, non seulement on sait qu'ils ont des doubles postes, tu es du centre de santé de l'autre côté, tu donnes de l'autre côté, tu donnes cours de l'autre côté. Étant ça, est-ce que tu peux former même le personnel qualifié? La question c'est à poser. Le médecin qui est là-bas, on sait qu'il a multiples tâches, il fait combien de choses dans la vie? Par jour même, il fait combien de choses?
Et Jimmy Kanté accuse le gouvernement de n'avoir pas mis des ressources qualifiées à leur disposition équipements. Juste une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, le directeur de l'hôpital Gabriel Touré, en acceptant de confier, selon Jimmy Kanté, plus de 40 bébés à 2 infirmières non qualifiées, est-ce qu'il n'a pas accepté, excusez-moi du terme, de leur laisser en quelque sorte mourir?
À la boucherie, mais c'est le mot peut-être, trop lourd. Il y a une question, souvent, on nous dit, le combat de la corruption, souvent, tout le monde réclame le moyen. Tu parles dans le domaine de la justice, on te dit, oui, on n'a pas de moyens, on le fait avec le moyen de bord que nous avons. C'est le même mot, c'est le même refrain qu'on entend aussi dans les hôpitaux. Manque de moyens, on fait avec les moyens que nous avons. Celui qui n'a pas de moyens, réellement, dans les conditions dont tu travailles, pourquoi ne pas dire au gouvernement, au ministère qui est là, qui est chargé de veiller à ce que vous ayez les moyens, de leur dire clairement, sans moyens, on ne peut pas faire ça. Vaut mieux vraiment laisser les gens à la boucherie, ou dire que voilà, on n'a pas de moyens, on fait avec les moyens de bord que nous avons. Le résultat est là. L'enfant vient d'être amputé. Moi, je ne dirais pas seulement que merci après la mort. C'est parce qu'on fait l'acte, après on demande les moyens. Mais avant ça, il faut réclamer les moyens. Il faut exiger à ce que vous ayez les moyens. On a eu combien de ministres de la Santé? Le ministre qui est là actuellement, on l'a tellement apprécié. Mais est-ce qu'il a eu le courage d'aller faire le tour dans les hôpitaux? On parle aujourd'hui du cas de l'hôpital Gabriel Touré. Mais il y a d'autres hôpitaux. L'hôpital du Mali est là, c'est pire souvent. L'hôpital de Kadi est là, souvent c'est pire. Rien que les militaires blessés qui reviennent là. On fait le tour là-bas, on le voit comment ils sont traités. C'est l'armée qui est concernée. Je vais au-delà des citoyens lambda. Celui qui n'a pas de moyens actuellement, Touré, tu es malade, oui, tu as un parent qui est malade. Attends-toi à la mort, c'est clair.
Alors là, aujourd'hui, est-ce que le personnel, la direction de l'hôpital Gabriel Touré, en acceptant, comme vous l'avez dit, de laisser deux infirmières non qualifiées garder des bébés ou prendre soin de 40 bébés, est-ce qu'ils ne le conduisent pas, comme le dit Samirou Diallo, à la mort?
Non, je pense que vous ne comprenez pas très bien le problème. Ce n'est pas la direction de Gabriel Touré qui accepte de confier 40 bébés à des infirmières. C'est un gouvernement. Lorsque
c'est le gouvernement c'est qui le attribue gouvernement, des tâches au niveau de l'hôpital Gabriel Touré.
Le gouvernement, quand je dis le gouvernement, la direction de l'hôpital Gabriel Touré ne peut pas aujourd'hui recruter suffisamment de personnel pour la tâche. Donc c'est la politique gouvernementale par rapport au recrutement, par rapport au redéploiement, par rapport à la mutation de personnel qualifié au niveau des services. C'est tout un système en réalité. Et j'ai dit que aucun directeur d'hôpital. Vous savez, depuis combien de temps nous sommes dans ces manifestations? Samirou l'a dit tout à l'heure. Pourquoi le médecin ne dit pas que, voilà, si vous ne faites pas ça, je vais arrêter? Mais nous ne faisons que ça. C'est pourquoi au niveau de l'hôpital, on a mis un syndicat pour le dire. Et je suis sur ce plateau. Mes camarades sont en ce moment sur la table de négociation avec le gouvernement pour dire exactement la même chose. Pour dire que si on ne recrute pas ou ne redéploie pas du personnel qualifié dans les hôpitaux, nous allons arrêter de travailler les 7, 8 et 9 août. Pour dire que si une unité de banque de sang, vous savez, la dame a parlé de produits sanguins, mais venez à Gabriel Touré, vous trouverez que c'est dans un petit conteneur où les gens viennent se faire prélever dans des conditions inhumaines, insupportables. Et on est en train de dire qu'il faut affecter un local digne pour au moins des prélèvements sanguins pour des gens qui viennent donner leur sang, pour au moins se sauver des vies. Nous sommes en train de demander aujourd'hui qu'il y ait simplement, je vous jure, écoutez très bien ça, qu'il y ait simplement du papier à l'hôpital Gabriel Touré pour pouvoir ne serait-ce que prescrire les ordonnances. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de gants, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas d'anuroscopie, il n'y a pas de fibroscopie, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de réactif au laboratoire.
Qu'est-ce qu'il y a alors à l'hôpital?
Il n'y a absolument rien, c'est un mouroir. Et ça, nous le disons. Nous le disons matin, midi et soir. Et lorsque quelqu'un vient et que la personne meurt à Gabriel Touré, ça nous fait très mal, énormément mal. Mais ce qui nous fait encore plus mal, c'est que les gens s'indignent parce qu'il y a mort d'homme. Mais c'est des villages que nous enterrons. C'est la morgue de Gabriel Touré, c'est à peu près 100 corps par semaine. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et les raisons sont connues. Les autorités ont décidé que à Gabriel Touré, qu'ils n'ont pas besoin de mettre les moyens pour que vous vous soignez. Et je vous assure, si Gabriel Touré tient encore aujourd'hui, c'est grâce au personnel. Ce personnel qui n'hésite pas souvent à débourser de ses propres poches de l'argent pour venir. Il y a certaines habitudes qui ont la peau dure. Il y a des brebis galeuses un peu partout. Il y a du personnel bénévole qui pose des actes dont nous ne sommes pas dignes et dont nous ne cesserons de condamner.
Donc, vous estimez que l'hôpital Gabriel Touré manque de moyens financiers?
Pas seulement que de moyens financiers. Alors, le budget de l'hôpital Gabriel Touré.
Pourquoi il est donc cité dans le rapport du vérificateur général concernant la corruption?
Non, la corruption, le rapport du vérificateur. Moi, je ne pense pas que le vérificateur puisse même vraiment voir ne serait-ce que la moitié des problèmes de l'hôpital Gabriel Touré.
Donc ce qu'il dit par rapport à la corruption au niveau
C'est énorme là. C'est plus que ça.
Donc ce n'est pas le gouvernement qui est responsable.
Non, mon frère. C'est-à-dire que je dis le gouvernement est responsable de tout ce qui arrive à l'hôpital Gabriel Touré. Je ne dis pas non plus que le personnel n'a pas sa part de responsabilité. Mais le gouvernement a obligation de sanctionner le travailleur indélicat et surtout encore que lorsque ce travailleur est envoyé et est cité par le syndicat. Le gouvernement a obligation de mettre à la tête de ses hôpitaux des responsables capables de prendre des décisions. Le directeur sortant de l'hôpital Gabriel Touré, tout le monde le connaît. Moi, je l'ai dénoncé plusieurs fois et je l'ai dénoncé en présence du ministre de la Santé, en sa propre présence et en présence de tout le personnel et des chefs de département et chefs de service de l'hôpital Gabriel Touré. J'ai dit, je suis désolé, vous n'êtes pas capable de gérer cet hôpital. Et nous avons des preuves de malversations financières. Et nous avons apporté ces preuves à qui de droit, rien n'a été fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tout le temps...
Les responsables actuels peuvent-ils, eux, gérer l'hôpital Gabriel Touré?
Non, ça, nous sommes un syndicat. Nous jugeons le maçon au pied du mur. Nous avons des doléances très claires. Nous avons demandé d'assainir la gestion de l'hôpital et de la rendre transparente. Qu'est-ce que nous demandons par là? Nous voulons désormais que lorsque vous venez en consultation à l'hôpital Gabriel Touré, que le médecin, vous venez en gastro, mais que le médecin qui est en pédiatrie, à partir de son bureau, sache que telle personne est en train de consulter telle personne et que l'argent va effectivement à tel niveau. Et qu'à tout moment de l'année, qu'on puisse vraiment demander. C'est pourquoi nous demandons chaque mois le certificat d'encaissement pour certifier effectivement le nombre de consultations qu'il y a à l'hôpital, mais le nombre d'argent, le montant d'argent versé dans les caisses et que nous nous asseyons, syndicat et direction, nous avons obtenu cela. Des mesures de transparence et beaucoup d'autres mesures. Mais ce qui est regrettable et ce qui est très déplorable, c'est que le Malien même accepte de se faire soigner dans ces conditions à l'hôpital. Le médecin est un fonctionnaire, il est obligé d'arriver. Et lorsque vous arrivez, il est obligé de vous donner les soins avec les moyens de bord qu'il a.
Le Malien a-t-il le choix?
Il n'a pas de choix, Jimmy. Le Malien n'a pas de choix. Malheureusement, on n'a pas de choix parce qu'on le dit, on n'a pas de moyens pour aller se faire soigner à l'extérieur, comme les ministres et puis les enfants des ministres actuellement se font. Nous, on est obligé d'aller se soigner chez vous. Mais en écoutant Jimmy, moi, je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Hein, parce qu'on suppose que le directeur de l'hôpital, Gabriel Touré, est là. Il vient encaisser. Il y a des cas de corruption. Il n'y a rien comme résultat.
Il vit, il est malade.
Il vit, voilà, merci. Et puis, il n'y a pas de sanction. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est vrai, le syndicat joue son rôle de veille, de contrôle, dénoncer, réclamer. Mais vous, en tant que syndicat, avant d'être syndicat, vous êtes travailleur de l'hôpital Gabriel Touré. C'est vrai, vous avez des rôles à jouer. Mais veillez aussi à ce que le personnel que vous avez ici, à ce que le personnel puisse jouer son rôle.
Il m'écoute pas. Mais c'est que
non,
c'est
je vous écoute, Jimmy.
Parce que vous me demandez de veiller à quelque chose. Et c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Vous ne pouvez pas me demander de déjà, c'est pourquoi je me bats à longueur de journée au vu au-dessus de tout le monde, je suis désolé. C'est tout ce que je fais. Le personnel, c'est nous qui le dénonçons. Celui qui le protège, c'est souvent les directeurs. Mais vous voulez quoi d'autre? Nous sommes syndicats, nous ne sommes pas les décideurs. Nous ne pouvons pas donner de demande d'explication.
Selon là, vous, pourquoi désolé. Le gouvernement ne réagit pas?
Le gouvernement ne réagit pas parce que le gouvernement ne réagit à rien du tout. Le gouvernement est insensible. Le gouvernement ne réagit pas parce que c'est, il a dit. Ce n'est pas, difficilement vous verrez un de nos ministres assis devant un box de consultation pour se faire consulter. Ce n'est pas leur problème. Récemment, il y a un ministre, un ancien ministre qui s'est fait agresser par son propre enfant. Il est venu à Gabriel Touré. Moi, je donne juste un exemple du général Meïdou, qui a été une fois attaqué à Bamako ici. Il était blessé, il est venu à l'hôpital. Et ce jour, le ministre de la Santé était là. J'ai dit, monsieur le ministre, mais regardez celui-là dans le sang. C'est un officier, valeureux officier du Mali. Mais tout à l'heure, avec cette blessure, il va être traîné à travers de la ville à la recherche d'un scanner. Et ceux qui l'ont agressé pourront même l'attendre. Ça pose un problème de sécurité aussi. Imaginez cela. Et ça, c'est une autorité. Mais combien de personnes meurent dans cet hôpital faute d'équipement? Vous savez, il y a, les gens aiment dire que nous sommes arrivés. Je donne juste ces détails parce que c'est très important. Le service, l'un des services les plus sensibles de Gabriel Touré, c'est les urgences. Et tout le monde vous dira que j'ai amené ma mère à Gabriel Touré, j'ai amené ma femme à Gabriel Touré, les médecins sont restés, personne ne l'a touché. Mais pendant des années, il n'y avait que deux médecins aux urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Toutes ces ambulances que vous entendez crier à travers la ville, c'est à Gabriel Touré qu'ils amènent les 80% de ces blessés-là pour deux médecins. Pendant que vous êtes impatient qu'on vous touche,
Mais tous les autres qu'on voit au sein de l'hôpital Gabriel Touré avec leurs blousons, que sont-ils?
Ils sont pas, souvent, c'est des étudiants, souvent, c'est des médecins, mais qui sont à d'autres niveaux.
Donc, la santé des Maliens est souvent confiée à des étudiants pour qu'ils
apprennent. Non, ça, c'est obligatoire. Et ça, ce n'est pas seulement qu'au Mali.
Mais est-ce
ça,
normal que ça, ce soit pas... le cas de certains bébés, des bébés qui sont très sensibles?
C'est normal. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Chine, c'est le cas partout dans le monde. Les gens sont envoyés en formation dans les hôpitaux.
Mais quand les personnes qui doivent former ces étudiants, vous l'avez dit, la plupart d'entre eux ne sont pas qualifiés.
Non,
à quoi faut-il s'attendre?
Je n'ai pas dit ça.
Vous avez dit qu'au niveau de la pédiatrie, il y a 45 bébés qui sont là-bas et qui sont gardés. Ceux qui prennent soin d'eux, ce sont deux infirmières non qualifiées.
Souvent. Non qualifiées, pour moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une infirmière, regardez depuis combien de temps, au niveau des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, au niveau de la réanimation, au niveau de la pédiatrie, la direction, faute de moyens, faute de pouvoir recruter parce que les ressources ne suffisent pas, a été obligé d'instaurer un système de contrat de garde. C'est-à-dire, on prend des gens C'est vrai qu'ils sont soumis à un test au préalable pour voir exactement leur CV, son prix, ils sont testés pour voir un peu ce qu'ils savent faire. Et ces personnes sont recrutées sous contrat de garde. Ils n'ont pas de salaire mensuel. Hein. Donc, ils font la garde et la garde est payée. Et trimestriellement. Et souvent, c'est des personnes qui peuvent faire souvent deux trimestres sans avoir un franc. Et il va de soi que ces personnes, c'est-à-dire que peuvent faire beaucoup de choses dont on n'en est pas fier. On parle souvent de vol de médicaments. Mais la plupart de ces gens, ce n'est sincèrement pas des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré. Et le syndicat l'a dit, c'est écrit noir sur blanc dans nos doléances. Doter le personnel en blouses et en barges pour permettre de les identifier et des blouses personnalisées. Parce que nous avons vu des individus acheter des blouses au marché.
Mais sans corruption, l'hôpital lui-même ne peut-il pas se doter de blouses et d'identifier?
Non, vous savez, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a tellement de priorités que lorsque vous venez aujourd'hui à l'hôpital, vous parlez de blouses, c'est-à-dire que la direction va seulement se mettre à
sourire. Quelle est la priorité ? La poche ?
Non, non. Là où on n'arrive même pas à donner d'ordonnancier pour prescrire, simple papier. Aujourd'hui, à Gabriel Touré, vous ne pouvez trouver aucun service avec ne serait-ce qu'une rame de papier. Ça n'existe pas. À plus forte raison, si vous parlez de blouse, vous parlez de barge et autres, ça c'est un luxe en ce moment. Et c'est nos autorités qui en ont décidé ainsi. Le budget a été coupé de 75%, réduit de 75%. Un budget déjà très insuffisant qu'on coupe encore à 75%.
D'accord. Et écoutons Tenin Samake qui a une interpellation.
En boulot, docteur, soyez en considérant des.
L'hôpital est notre seul espoir. Au Mali, quand les enfants sont malades, les parents se précipitent vers l'hôpital Gabriel Touré dans l'espoir qu'ils soient sauvés. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Devant nous, des fourmis ont tué le bébé de quelqu'un. Un jour, j'étais assise, je donnais le biberon à mon enfant. Une femme s'est approchée d'un docteur, lui disant de regarder le pied de son bébé, qu'il y a un problème. Le docteur lui a craché sur le visage que ce n'était pas son problème et qu'il n'est pas là pour ça. Seul Dieu sait le nombre de bébés qui meurent aujourd'hui à l'hôpital Gabriel Touré. Ce qu'on nous a fait là-bas, on ne peut jamais l'oublier. Nous, notre bébé, on l'a amené dans le but qu'il soit sauvé et non qu'il soit amputé du bras. Pour nous, c'est déjà un fait. Mais qu'en est-il du sort des autres bébés? Il faut que les autorités prennent des précautions. Sinon, la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré n'est plus en mesure de sauver un enfant.
Alors, Tenin Samake demande qu'il y ait des sanctions pour que ce genre de situation ne se reproduise pas au sein de l'hôpital Gabriel Touré. Ça me permet de poser la question de Dani Danyoko sur Facebook qui dit « Je suis Abdoulaye Kone et je suis docteur en droit public, parcours droit de la santé. Est-ce que le manque de contrôle sur les ressources humaines n'est-elle pas à la base de toutes ces difficultés ?»
Oui, et ce manque de contrôle est à la base, mais je vais juste répondre à un point de Jimmy. Il demande à ce que le budget a été réduit. Mais moi, je pense qu'il y a ce qu'on a l'autonomie de gestion au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Ils sont autonomes de leur gestion financière. Parce qu'on le dit souvent, il y a des structures qu'on n'a pas l'habitude de le dire. Combien la structure gagne par an, ça a été géré comment, ce qu'on appelle la redevabilité au sein de l'hôpital Gabriel Touré. Est-ce que le syndicat veille sur ça? De dire que oui, le directeur est là pendant tel moment, comment il a pu faire avec les petits sous qu'il gagne? Est-ce que le citoyen lambda est satisfait? C'est ça la question que monsieur a posée. Le manque de contrôle. Il a dit quelque chose qui est important. Comment se dit-il que quelqu'un qui vient, il n'est non seulement pas du personnel de Gabriel Touré, pendant un certain moment, il travaille, il continue de travailler. Il vient parce que mon frère est là-bas, mon papa est directeur d'un service de Gabriel Touré. Moi, en tant que citoyen lambda, soit en tant qu'étudiant, je viens chaque jour. Ça pose des problèmes de ce genre-là. Moi, je me dis, en écoutant Dumé, le personnel de Gabriel Touré n'a rien comme faute. On met tout sur le gouvernement. Le gouvernement est interpellé, on le dit, on le redit. Le gouvernement doit jouer son rôle. Mais le personnel de Gabriel Touré, je ne parle pas du syndicat.
Permettez-moi de rappeler que le gouvernement aurait pu répondre à toutes ces questions, se défendre, s'il avait accepté à travers notre invitation de venir sur ce plateau.
Je fais un constat. Tu ne prendras pas un professeur qui n'a pas une clinique à Bamako. C'est vrai, la loi les autorise, mais ils sont plus concentrés, ils se donnent plus au fond dans ces cliniques-là que l'hôpital Gabriel Touré. Mais combien de personnes ont les moyens d'aller dans ces cliniques-là, Touré? Ça se compte par droit. Mais combien de personnes partent là-bas, au niveau de Gabriel Touré, au niveau des hôpitaux, pour se faire soigner parce qu'ils n'ont pas de moyens? On suppose que tu pars là-bas, l'État a l'obligation, ou le syndicat qui est là-bas, le personnel qui est là-bas a l'obligation de veiller à ce que vous ayez la santé. Mais ça se fait comment? La question que moi je me pose. Donc le personnel de l'hôpital Gabriel Touré doit se remettre en cause d'abord. L'autonomie, la dame a dit quelque chose qui est important. Touré, tu vas dans l'hôpital Gabriel Touré, rien que... À l'entrée seulement, tu vois quoi?
Les conditions sanitaires.
Les conditions sanitaires. Qu'est-ce que les conditions sanitaires nous permettent d'aller?
Moi, je pense que M. Diallo est comme programmé en quelque sorte. Parce qu'il n'écoute pas.
Avant cela, je vous pose une question qui a été posée par Tenens Amaké. Tenens Amaké demande à ce que des sanctions, des mesures soient prises pour éviter ce genre de situation. Mais à vous entendre, on a l'impression que même demain, même après-demain, ce genre de situation risque de se reproduire.
Il va se passer pire que ce qui arrive actuellement.
Donc il n'y a pas d'espoir, Touré.
Il n'y a pas malheureusement d'espoir au rythme où vont les choses. Je ne parle pas du personnel et je n'ai jamais dit que le personnel de l'hôpital n'a aucun défaut. J'ai situé des responsabilités, souvent du personnel qui n'est même pas de l'hôpital Gabriel Touré, qui vient poser des actes. Et ceux qui me connaissent effectivement au niveau de l'hôpital Gabriel Touré pensent, surtout le personnel de Gabriel Touré, pense que je ne suis même pas digne d'être un syndicaliste parce que je mets plus de pression sur le personnel que sur les autorités, alors que selon eux, mon rôle est de défendre purement et simplement les travailleurs. Vous savez, lorsqu'ils parlent d'autonomie de gestion. Mais c'est au fait quoi? Gabriel Touré, la recette de Gabriel Touré, ça ne suffit même pas, mon frère, pour payer le travailleur. Ça ne suffit même pas ce que Gabriel Touré fait rentrer. Malgré toutes les... Moi, je suis tellement à l'aise...
Mais qui en profite?
Je dis que les ressources, c'est l'État qui décide des tarifs de l'hôpital. Et compte tenu de la fréquentation, des hospitalisations, des actes qui sont posés, la maintenance d'un simple équipement souvent suffit pour engloutir tout le budget engendré sur fonds propres de l'hôpital. La maintenance d'un simple scanner. Les équipements médicaux sont des équipements très chers.
Mais au minimum, l'hôpital Gabriel Touré peut recevoir combien de consultations par jour?
Dire que je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que nous sommes... Ceux qui sont enregistrés, parce qu'il y a beaucoup de consultations qui se font, qui ne sont pas enregistrées. Et ceux qui sont enregistrés, c'est au-delà de 100 000 consultations.
Multiplié par 1500 francs CFA.
Par an, 100 000 consultations. Gabriel Touré, la recette. Je peux te donner les recettes de Gabriel Touré de plusieurs années. Et tous les mois, je l'ai en tête. Parce que nous demandons des comptes.
Ça va où, justement, ces recettes? Dans les poches de certains?
Non, ce n'est pas dans les poches de certains.
Pourquoi le vérificateur général estime qu'il y a une corruption?
Puisque vous avez déjà posé une question, je n'ai pas répondu, vous posez plusieurs autres.
C'est pour mieux comprendre.
Non, je ne saurais pas répondre parce que je ne sais même plus laquelle est la question.
La question est
claire. Vous dites combien Gabriel Touré gagne? Vous dites où va cet argent? Vous parlez de vérificateur. Finalement, à quelle question je vais répondre? Gabriel Touré gagne entre 30 et 45 millions par mois. Gabriel Touré a du personnel qu'il paye sur ressources propres, avec leur prime de garde. Cet argent ne suffit pas pour payer seulement ce personnel recruté sur fonds propres et leur prime de garde. Et malheureusement, sur ces mêmes fonds, il y a des dépenses qui doivent être prises qui ne sont même plus, on n'est même plus capable de prendre. Et l'État, du fait que l'État décide des choses, l'État injecte quelque chose dans ce qu'on appelle le budget de l'État. Au niveau de l'hôpital, il y a deux budgets. Il y a les fonds propres, il y a le budget de l'État. Et ce budget de l'État, qui pour le fonctionnement était de 1 milliard à peu près, a été réduit de 75%. Et ce budget aussi, qui doit prendre en compte un certain nombre de choses. Regardez simplement la bienvenue de l'État.
Permettez-moi de mieux comprendre et de permettre aux auditeurs et téléspectateurs de mieux comprendre. La corruption dénoncée au sein de la gestion de l'hôpital Gabriel Touré, est-ce une réalité ou pas?
Je ne pense pas que ce soit ici, sur ce plateau, qu'il faut parler de corruption.
Non, est-ce
le journaliste est corrompu? L'hôpital Gabriel Touré.
Il y a de la corruption.
Mais forcément, ça, c'est... il n'y a aucun secteur.
Alors, aujourd'hui, vous le dites qu'on aura pire demain par rapport à cette situation, alors que les gens ont besoin d'être rassurés, alors que les gens aujourd'hui interpellent l'État à réagir. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour
ce qui doit être fait, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Quoi?
Nous sommes allés voir l'association des consommateurs du Mali pour leur dire, voilà ce qui se passe au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Vous êtes de la société civile, agissez. Nous avons rencontré le collectif Sauvant des hôpitaux. Moi, je les ai rencontrés. J'ai discuté par rapport à ce qui se passe à Gabriel Touré. Nous sommes
transporté à l'Assemblée nationale du Mali pour aller rencontrer la commission santé de l'Assemblée pour dire voilà comment est-ce que le Mali, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en plus de ça? Et ce que nous, si nous, cette même commission est venue faire une tournée à l'hôpital et bizarrement la nuit nous sommes assis devant nos petits écrans, on voit que tout va bien à l'hôpital Gabriel Touré. Ça aussi c'est une forme de corruption. Nous nous sommes allés au-delà de nos prérogatives, nous sommes allés rencontrer le réseau des communicateurs traditionnels du Mali pour leur dire vous êtes des personnalités qui sont écoutées, venez à Gabriel Touré, venez parler aux responsables de Gabriel Touré, imprégnez-vous de ce qui se passe à Gabriel Touré, agissez parce que l'hôpital, chacun de nous, nous sommes tous de potentiels malades.
Quelle est la réponse que vous donnent les autorités?
Non, mais quelle réponse? Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de moyens. On fait des coupes budgétaires pour peut-être sécuriser des gens au centre, mais on laisse le double de ceux qui pouvaient mourir au centre, on les laisse mourir à Bamako. On déplace justement les problèmes, on ne les résout pas. Et si rien n'est fait, le budget alloué aux hôpitaux du Mali, c'est purement et simplement la mort programmée. Et c'est l'État même qui décide, allez-y mourir dans les hôpitaux, nous nous en foutons. C'est clair.
Qu'est-ce qui reste donc pour le citoyen lambda?
Il reste pour le citoyen lambda d'attendre qu'il soit malade pour aller mourir dans les hôpitaux. C'est la mort qui nous reste seulement à faire. Moi, en termes de proposition de solution, c'est les citoyens, en tant que société civile, c'est nous qui pouvons vraiment insister et jouer notre rôle. Aider le syndicat. Je suis vraiment d'accord tout ce que le Jimmy est en train de faire. Mais il lui reste beaucoup à faire. Le beaucoup à faire, c'est au niveau de la société civile. En tant que société civile, seul nous. Parce que, Touré, il y a quelque chose qui est important. On ne réclame pas quelque chose lorsqu'on n'a pas besoin. Chacun de nous réclame, oui, Gabriel Touré, ça ne va pas. C'est parce que lorsque tu as un parent qui est malade ou tu as un ami qui est malade et que tu fasses un tour. Mais tandis que ton voisin est dans le même problème, il le fait que crier, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu fais lourd, tu fais comme si rien n'est fait. Mais c'est lorsque le problème vient vers toi, tu te rends compte que voilà, il y a un problème. D'accord. Exiger sur nos autorités.
Vous estimez que vous avez interpellé les autorités pour qu'une action soit faite. C'était quand la dernière fois, quand le président de la République s'est déplacé pour aller voir comment les choses se font à l'hôpital Gabriel Touré?
Moi, je pense que c'est, si j'ai bonne mémoire, c'est suite à des attaques qui se sont passées au nord du Mali, où il y avait beaucoup de blessés, qu'il est venu voir à l'hôpital. Il ne vient pas très souvent. Heureusement qu'actuellement, nous avons, je voudrais d'ailleurs de passage saluer, il y a actuellement un ministre qui est fréquent. C'est-à-dire, il a même tendance à déménager chez nous à l'hôpital Gabriel Touré.
Mais malgré cela, vous estimez que les choses ne bougent
non,
pas?
Non, les choses ne bougent pas. Quels sont les moyens qu'on met à sa disposition? On lui donne un couteau, on lui demande d'affronter toute une armée. Je voudrais justement terminer pour interpeller vous, les hommes des médias, les journalistes. Et la question de Gabriel Touré, elle est très importante. Intéressez-vous à Gabriel Touré, cherchez à combattre, cherchez vraiment à perfectionner ce personnel que nous sommes. Nous ne sommes pas fiers de tous les comportements que nous faisons dans ces deux hôpitaux. Et ça, c'est vraiment clair. D'accord. Mais également, peut-être interpeller également le personnel soignant. Comprendre que celui qui vient, ce n'est pas une personne dans son état normal. Moi, j'ai demandé, obtenu une commission à Gabriel Touré qu'on appelle COCACO, la commission de contrôle, d'accueil et d'orientation.
D'accord. Dire que nous aurons d'autres occasions pour en parler. Chacun a un rôle à jouer pour que le Malien lambda puisse bénéficier de son droit qui est la santé. Nous, hommes de médias, notre rôle, c'est de permettre que chacun puisse s'exprimer et dire ce qu'il a envie de faire. Et c'était dans ce cadre que ce grand dialogue a été organisé par Studio Tamani. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Merci à nos invités, Jimmy Kanté, porte-parole du syndicat du CHU Gabriel Touré, et Samerou Diallo du collectif Sauvons nos hôpitaux. Je rappelle que nous avons invité le ministère de la Santé, mais ils n'ont pas souhaité être parmi nous. À la régie vidéo et audio, il y avait Peting Diarra et Seydou Ndao. Moi, je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Haloud Mouni.
Chien Niberi.